pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'écocide, que l'on peut définir pour aller vite comme un crime contre l'environnement, assorti de ses conséquences sur l'écologie, l'espèce humaine et animale, sera-t-il un jour jugé comme un crime international contre la paix et inscrit dans les statuts de la Cour pénale internationale, au même titre que le crime contre l'humanité, le génocide, le crime de guerre et le crime d'agression ? C'est la question qui sous-tendait les débats qui sont tenus à La Haye pendant 2 jours, samedi et dimanche dernier, les 15 et 16 octobre, lors d'un vrai faux procès à valeur hautement symbolique et historique, intenté pour la première fois contre une multinationale américaine. Une 30aine de personnes sont en effet venues du monde entier, d'Argentine, du Bangladesh, du Sri Lanka, du Burkina Faso ou de France. Des agriculteurs, des apiculteurs, des cultivateurs de coton, de café, de céréales, des experts, des scientifiques, des médecins, pour témoigner devant des juges professionnels chargés d'évaluer les méfaits de Monsanto, le géant des biotechnologies agricoles, producteur d'OGM, de pesticides, herbicides et autres semences imposées. La présidente du tribunal, la Belge Françoise Tulkens, est une ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle y a travaillé pendant plus de 10 ans. À ses côtés, pour juger des dégâts occasionnés par les produits Monsanto sur les hommes, les sols et les animaux, ainsi que sur la biodiversité, ont aussi siégé des magistrats professionnels. Vrai faux procès ou tribunal virtuel, les sages de La Haye ne rendront hélas pas de verdict véritable. Leur jugement serait rendu d'autant plus malaisé que l'unique accusé, Monsanto, n'y est pas représenté. Il a refusé de se rendre à La Haye au motif, entre autres, qu'il se trouvait condamné par avance. En revanche, les juges se sont engagés à proposer le 10 décembre, lors de la Journée internationale des droits de l'homme, un avis consultatif que l'on pourra raisonnablement tenir pour juridiquement fondé et correctement informé. On aura également compris que la tenue de ces audiences à La Haye milite en soi pour la création d'un tribunal pénal international de l'environnement et de la santé. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, nous vous proposons donc d'entendre quelques extraits de ce procès Monsanto tel qu'il s'est tenu le week-end dernier, procès que nous avons augmenté d'une rencontre plus approfondie avec l'un des témoins sur ces terres, le français Paul François, le premier à avoir porté plainte directement contre Monsanto. C'est un reportage de Pascal Pascariello jusqu'à 14h sur France Culture évidemment.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Tribunal, Mesdames et Messieurs, nous vivons une journée historique et nous en avons aujourd'hui tous conscience. La fonction de ce tribunal, il faut le rappeler, n'est pas de condamner, que ce soit au pénal ou au civil Monsanto, mais de dire le droit et de répondre à des questions concernant la conformité ou non du comportement de Monsanto aux règles du droit international et également des règles de droit privé que les grandes entreprises ont décidé de se fixer à elles-mêmes. Nous regrettons l'absence volontaire de Monsanto. La démarche que nous avons initiée et la décision, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Tribunal, que vous rendrez, quelle qu'elle soit, doivent permettre à la société civile, aux hommes et aux femmes de toute cette planète, de pouvoir initier dans leurs pays respectifs les actions nécessaires en se fondant sur les mêmes bases juridiques et les mêmes bases scientifiques et factuelles qui seront mises en évidence ici au cours de ces 2 jours. Ils devront également permettre aux États de prendre conscience de la nécessité de faire évoluer le droit international en reconnaissant l'écocide et en reconnaissant également la nécessité d'un tribunal pénal international de l'environnement et de la santé pouvant permettre de juger de crimes environnementaux. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques propos préliminaires que je voulais tenir. Je vous remercie de votre attention.
Merci Madame la Présidente. I call here Mrs. Sabine Grataloup and Mrs. Maria Luz Robledo from France and Argentina. You are the first witness, so the floor is yours.
Thank you. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'ouvrir la longue marche des victimes de Monsanto. Et je sais que vous allez entendre beaucoup de chiffres et de statistiques pendant les deux jours qui vont venir. Aussi, j'ai voulu mettre un visage sur ces statistiques. Donc, je me suis permis d'apporter quelques photos que je vous transmets. Ces photos sont celles d'un petit garçon. Un petit garçon qui s'appelle Théo et qui est mon fils. Il est né il y a 9 ans maintenant. Il est né avec des malformations, en particulier une atrésie de l'œsophage. C'est-à-dire que son œsophage ne descendait pas jusqu'à son estomac. Donc de multiples malformations qui ont au total nécessité 50 opérations. Donc c'est une somme énorme de souffrances accumulées. Ça a été une lutte de tous les instants depuis 9 ans pour lui, pour qu'il puisse avoir une vie la plus normale possible. Quand nous avons demandé aux chirurgiens d'où pouvaient venir ces malformations, ils nous ont dit que les seules études disponibles à l'époque, donc il y a 8 ans, pointaient vers une implication des pesticides, mais que pour le moment ce n'était pas probant, ce n'était pas forcément tous les cas d'atrésie de l'œsophage qui bien sûr étaient dus aux pesticides. Mais un an après, je me suis retrouvée à faire en fait ce que je faisais tous les ans, c'est-à-dire que chez nous, nous avons une carrière d'équitation, nous avons des chevaux à la maison, c'est notre métier. Donc nous avons un grand espace de 700 mètres carrés pour monter à cheval, qui est en sable, et sur lequel chaque été, je passais un désherbant à base de glyphosate. J'utilisais le désherbant à base de glyphosate parce que j'avais vu une publicité qui disait que ce produit était le moins nocif et était biodégradable. Et donc je me suis dit que c'était le produit qu'il fallait utiliser, qui était le moins mauvais, on va dire. Et j'ai pris conscience en fait seulement un an après que tous les ans, et donc forcément au début de ma grossesse, j'avais passé ce désherbant à base de glyphosate sur la carrière d'équitation à la troisième ou quatrième semaine de grossesse, puisque Théo a été conçu début août. Et je passais toujours ce produit en juillet et fin août, de façon à garder la carrière d'équitation propre pour l'hiver. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon enfant a été exposé à une forte dose de désherbant à base de glyphosate à la troisième et quatrième semaine de grossesse, qui est, je le précise, une période pendant laquelle je ne savais pas que j'étais enceinte. C'est trop tôt dans la grossesse pour savoir qu'on est enceinte. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris de précautions particulières vis-à-vis des produits chimiques. Et il se trouve que c'est à cette période-là que l'œsophage et la trachée se forment chez le fœtus. C'est ce que les toxicologues m'ont dit appeler l'effet fenêtre, c'est-à-dire une intoxication forte à un moment qui est crucial pour le développement du fœtus. Par la suite, d'autres études sont venues appuyer ces soupçons. En Argentine, où les populations sont exposées de manière chronique à des pulvérisations de glyphosate, on constate également là l'apparition de malformations en nombre considérable. Toutes ces études m'amènent à considérer que ce qui est arrivé à Théo n'est pas un accident isolé. Donc ça m'amène à dire que nous sommes en face d'une épidémie, je pense qu'on peut prononcer le mot, c'est une épidémie de malformations induite par l'homme. Et donc ce n'est pas normal que ce soit à des individus comme nous, isolés, de tirer la sonnette d'alarme. Et c'est pour ça que je suis devant vous en espérant qu'une instance internationale sera en mesure de se saisir de ces problèmes pour que ce ne soit plus à des individus et des victimes isolées d'essayer de le faire et d'alerter la communauté.
Maintenant, je vais demander à M. Paul François de France de venir apporter son témoignage.
Merci de me donner la parole. J'ai entamé une procédure effectivement contre Monsanto, je vous en parlerai plus tard. Je pense qu'il était important que je sois là, d'une part pour témoigner que Monsanto peut être condamné, même par un simple individu, un simple citoyen, et que d'autre part, les problèmes ne sont pas que dans des pays en voie de développement, mais aussi en France. Cette firme, que j'avais connue si sympathique, quand j'ai découvert leur vrai visage, que ce soit connu, ici, vous parlez d'écocide, mais je me demande jusqu'à quel point...
Je m'appelle Paul François, j'ai 52 ans, je suis agriculteur. J'étais formé dans une agriculture basée sur la chimie parce que cette chimie, dans un premier temps, elle m'a apporté énormément de confort dans le travail, confort dans la stabilité des rendements. Elle est extrêmement facile en plus. Donc je ne voyais pas comment on pouvait faire autrement. Le 27 avril 2004, j'avais fini les épandages d'un herbicide qui était du lasso qu'on employait pour désherber les cultures de maïs. Et j'ai voulu vérifier que le nettoyage avait bien fonctionné. Donc vous voyez ici l'appareil hein, qui est assez impressionnant. Et il y a une cuve embarquée dans laquelle on mélange les produits que l'on épand. Il faut donc le préparer. Vous voyez, il y a un système d'incorporation. Je suis passé le long de la cabine, vous voyez, là, et je suis allé voir, il y a un grand couvercle là au-dessus, et j'ai ouvert pour être sûr que le nettoyage soit bien fait. Malheureusement, ce nettoyage n'était pas bien effectué, et il restait du résidu du produit avec de l'eau dans la cuve, et comme cet appareil était, on est en avril, il fait déjà chaud, la cuve était au soleil, hein, sur la plateforme où on prépare les produits. Et c'est un mélange d'alachlore et de monochlorobenzène. L'alachlore est le principe actif. Et ce monochlorobenzène est devenu un gaz. Et en ouvrant le couvercle, j'ai inhalé ce gaz. Et au moment où je l'ai inhalé, j'ai senti une sensation de chaleur dans tout le corps. Je sens cette décharge dans le corps. Donc j'ai laissé l'appareil où il était, je suis rentré chez moi. Bon, les consignes hein, dans ce genre de problème, c'est de prendre une douche. C'est ce que j'ai fait. Et puis, je me suis dit, bon, ça va passer. Je me suis allongé. Mais je sentais bien que j'avais une fatigue et puis une sensation d'endormissement. Ma femme ayant travaillé donc, en milieu hospitalier pendant 17 ans, elle a bien compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et elle a appelé le service d'urgence où elle avait travaillé pendant des années en disant « J'arrive avec mon mari, il commence à avoir des difficultés pour respirer, il est en train de perdre connaissance. » Donc j'ai été sous surveillance pendant quelques jours. Et puis mon état de santé s'est amélioré et j'étais en pleine activité, donc avril, le mois de mai passe. J'avais pas trop le temps quand même de m'apitoyer sur mon sort, puis c'est pas mon tempérament non plus. C'est vrai que je maigrissais, c'est vrai que j'étais très fatigué, c'est vrai que j'avais ces problèmes d'élocution qui perduraient. Puis j'étais irritable, j'avais des problèmes de concentration et des petits moments d'absence. À tel point quand même que mon médecin me dit « Bon, écoute, il va falloir que tu passes des examens pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi tu es comme ça ?» Le 29 novembre 2004. Donc là, j'ai été pris de violents maux de tête. J'ai perdu connaissance. Là, j'ai été hospitalisé dans la nuit en urgence à l'hôpital. Alors là, effectivement, beaucoup d'examens. Et de dire, les examens ne montrent rien. Et tout de suite, de dire, oui, mais comme il est surmené, qu'il est très fatigué, il faut d'abord qu'il ait du repos. Alors ça, c'est vrai que je n'avais jamais passé autant de temps à me reposer. J'étais effectivement très fatigué, j'avais perdu pas loin de 10 kilos. Je perdais connaissance brutalement. Ça devenait des comas plus ou moins profonds. Et là, les médecins, quand même, ont dit il peut être fatigué, mais ça devient inquiétant. Et j'imagine pas encore que ça va durer aussi longtemps. Donc, ma femme a commencé, avec mes frères et sœurs, à enquêter, à vouloir comprendre. Et à ce moment-là, le réseau qui s'est fait autour de moi ont permis, dans un premier temps, de rencontrer un chercheur qui s'appelle André Picot, directeur de recherche au CNRS, toxichimiste. Et lui, il avait été très surpris comment il a pu utiliser un produit dosé à 50% de monochlorobenzène. À tel point qu'il avait dit à ma femme, il doit y avoir une erreur, elle lui avait envoyé des documents. Lui, vous devez faire une erreur, 5% je veux bien, mais 50% c'est énorme. Et il dit, vous savez, le monochlorobenzène, il en est utilisé beaucoup dans l'industrie, surtout automobile, parce que c'est un décapant puissant pour les pièces, et ça provoque des maladies professionnelles connues. Donc là, il est question de me transférer dans un hôpital parisien. Alors, quand j'arrive dans cet hôpital, c'est plus une lueur d'espoir, parce qu'en plus d'entrée, on nous dit, voilà, vous êtes entre de bonnes mains, d'ici moins de 2 semaines, on sera fixé, vous inquiétez pas, on a tous les appareils possibles et inimaginables pour comprendre ce qui se passe. Et j'étais donc rassuré, il n'y avait pas de souci. Le seul problème, c'est que ça n'a pas duré 11 jours, parce que c'était 11 jours qu'il m'avait dit, parce que j'y suis resté 65 jours. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Voilà, le chef de service, il arrive, il tire le drap. On ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'il a, le monsieur. Je me disais, mais je ne vais jamais rentrer chez moi. Je ne vais pas revoir mes enfants. Je vais crever là. Je me revois dans cette chambre qui était bien sinistre en plus. Quand mes filles m'appelaient matin et soir avant de partir à l'école, je tenais à être rassurant, disant que j'avais passé une bonne nuit, que ça se passait bien, que j'allais pas tarder à rentrer, que tout ça allait vite passer. Et ça, ça devenait quand même très difficile. Donc André Picot a commencé à ce moment-là à essayer de comprendre mon cas. Et il a dit, le monochlorobenzène mélangé à de l'alachlore, le principe actif, plus la douzaine de molécules chimiques qu'on a trouvées dans l'analyse du produit dans les 7% restants, c'est tout simplement ce mélange-là qui a complètement changé le métabolisme de l'alachlore. Il faut évacuer ces toxines qui sont dans son corps. J'ai vu un traitement. Il faudrait l'essayer sur Paul. Donc, il propose ce traitement. Et le taux du métabolisme de l'alachlore a diminué petit à petit. Je me sentais mieux, ça c'est évident. Voilà, et à tel point que je suis rentré à mon domicile courant mai. Et là, je respirais, j'étais debout, j'étais bien. Je voyais mes filles que je n'avais pas vues depuis 5 semaines. Je revivais. Ma santé s'améliore. Moi, le 1er juillet 2005, enfin je peux travailler, enfin je peux revivre normalement. Donc, naturellement, je me retourne vers la Mutualité Sociale Agricole, je dépose un dossier, et là on me répond, mais écoutez monsieur, il n'y a aucune preuve. Je dis, mais aucune preuve, je ne sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Enfin, on ne peut pas vous prendre. Mais vous avez le droit, si vous n'êtes pas content, vous pouvez contester devant un tribunal. Ah bon? Et là, j'entame une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Je prends un avocat qui me dit, mais moi, j'ai des contacts avec certains médecins qui pourront nous aider pour cette reconnaissance. Ce qui l'a surpris, c'est que les premiers médecins responsables de service dans les hôpitaux, quand ils lui parlaient du produit qu'ils disaient, c'est Monsanto qui l'a fabriqué, deux lui ont dit, attends, nous, on ne veut pas être embêtés. Très vite, je commence à me poser des questions parce que, en faisant un travail d'investigation, je découvre d'une part que ce produit, le Lasso, fabriqué par Monsanto, donc homologué en 1967, a commencé à être remis en question sur sa toxicité dès le début des années 80 par certains pays. Je prends pour exemple le Canada, qui a interdit l'utilisation de ce produit dès 1985. Je découvre aussi que des pays comme la Belgique et certains États américains l'ont interdit dès le début des années 90. Et je commence à comprendre que cette firme est capable de fabriquer des molécules et n'a pas beaucoup de scrupules pour l'environnement et puis pour la santé humaine tout simplement. Ces gens-là ne peuvent pas rester impunis et il fallait dénoncer et les faire condamner. Je me demande jusqu'à quel point il ne faudrait pas attaquer cette firme. Je commence à prendre conscience que je suis en train de me lancer dans une procédure qui va être très difficile, que je n'imaginais pas. En novembre 2008, j'obtiens devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême une décision indiquant que mes problèmes de santé et toute la période d'arrêt de travail de 9 mois étaient bien liés à l'utilisation du lasso fabriqué par Monsanto et rien d'autre. Et la cour d'appel de Bordeaux confirme cette décision en janvier 2010. Donc c'est déjà deux décisions indiquant bien que c'est le lasso responsable de mes problèmes de santé. Monsanto est donc condamné à m'indemniser. Là, c'est un grand soulagement. C'était une première victoire. Fier de notre justice parce que je découvre ce jour-là que c'était pour la première fois dans le monde qu'un particulier faisait condamner Monsanto. La société Monsanto a fait appel de cette décision. Et là, deux procédures se lancent. Bien sûr, la procédure en appel, mais aussi la procédure d'évaluation du préjudice. Et donc, vous avez les experts qui vous reçoivent un par un, ils posent des questions, ils regardent. Leur stratégie a toujours été basée sur le fait de dire « si accident, intoxication il y a eu, on n'a pas de preuve que c'est notre produit ». Il a fallu faire un travail colossal pour montrer que c'était bien leur produit, que je l'avais acheté. Ils ont contesté les factures. Enfin, c'était moi qui étais un menteur, c'était ça en permanence. Et puis, les avocats de Monsanto font en sorte que je ne les oublie pas. C'est les procédures. Dès que les avocats modifient dans leurs conclusions, dans leurs écritures, vous devez informer la partie adverse. Et moi, je ne fais pas attention. Et à un moment donné, ils en viennent à me les faire déposer par huissier. Donc si des fois, je les oubliais, boum, vous avez un huissier le matin à 8h là, qui vient vous déposer là 200 pages. Et boum, et quand vous lisez ces 200 pages... C'est fabulation, c'est tout ça une machination. Ma femme est complice de tout ça, qu'on a voulu se faire une notoriété. Enfin, vous faites des cauchemars la nuit, vous réveillez. J'ai été sali, j'ai été calomnié, j'ai tout entendu. Et puis, moi, les médias m'invitaient, j'ai essayé de choisir. Alors, ah, on a vu ton père à la télé, ah, on l'a vu dans les journaux, ah, puis après, un peu plus sur moi, ah, il veut faire de l'argent, hein, puis il va être connu, hein, et puis... Ça va avoir des conséquences sur ma vie familiale. Je ne veux pas faire supporter ça à mes filles. Et je suis fatigué. On a continué à se battre. Et puis, les plaidoiries ont eu lieu en mai 2015. Les plaidoiries ont été d'une violence inouïe. Il y a quelques jours, un de mes frères me disait, après les plaidoiries de Monsanto, un doute s'est installé. Ils étaient tellement convaincants dans leurs plaidoiries, parlaient des factures qui n'existaient pas, des expertises qui n'existaient pas. Il disait, mais peut-être que Paul, en fin de compte, il... Et donc, le 10 septembre 2015, la cour d'appel a rendu un verdict en confirmant la première décision. Donc, Monsanto a été condamné parce qu'ils avaient failli à l'obligation d'information sur la dangerosité du produit. C'est uniquement ça. Et donc responsable des problèmes de santé que ça a engendré pour moi. Donc Monsanto a fait un pouvoir en cassation le soir même. Maintenant, il faut attendre la décision de la Cour de cassation. Voilà, c'est leur stratégie d'usure. D'une usure morale, d'une usure financière, puis peut-être aussi qu'ils se disent mais peut-être que je serai mort avant à la fin de la procédure. Ça ne sera pas suffisant parce que je crois que si malheureusement je venais à disparaître, mes filles continueraient le combat et puis d'autres s'en chargeraient. Mais on ne peut pas les laisser faire, on doit pouvoir les faire condamner. Alors, Actuellement, je vis avec des contrôles réguliers médicaux d'examen. J'ai des lésions au niveau du cerveau qui évoluent. Je sais, si j'en crois certains médecins, que ça ne pourra pas évoluer dans le bon sens. Donc c'est difficile de vivre avec cette sensation. Mais bon, je reste optimiste. Alors, j'ai été appelé pour savoir si j'accepterais d'aller témoigner au tribunal Monsanto à La Haye. Ils vont reproduire la procédure et comme si c'était la Cour de justice des droits de l'homme. Donc, il était peut-être important que j'aille témoigner pour donner de l'espoir à d'autres victimes, parce qu'il y aura des victimes du monde entier.
La dernière chose que je dirais pour conclure, se battre contre Monsanto, c'est une chose. La grande difficulté a été de convaincre mes collègues agriculteurs dans un premier temps que ce combat pouvait leur servir. Et aujourd'hui, ce sont les agriculteurs bio qui me montrent du doigt en disant « Ta ferme n'est pas encore convertie complètement à l'agriculture biologique ». C'est vrai que c'est mon objectif, mais ça ne se fera que lentement parce qu'on ne peut pas être sur tous les combats. Et ceux qui me jugent, je veux bien leur donner ma place. Merci.
Nous vous remercions de votre présence ici et de votre intervention qui aide certainement les travaux du tribunal. Merci beaucoup.
Ça, c'est les cultures bio. On est en train d'endainer de la luzerne qui a été conduite en agriculture biologique. C'est une autre méthode. J'aimerais vraiment, quand je vais arrêter, j'ai 52 ans, quand je vais arrêter, laisser une exploitation propre et qui ne soit plus dépendant des pesticides. Je l'ai promis à mes filles. Ça sera le dernier combat.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le procès Monsanto, un reportage de Pascal Pascariello réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Paul François, Emma Gauthier, à Françoise Bouleg et bien sûr au Tribunal international de Monsanto. Un très bon article de Ludovic Lamant est à lire sur le site de Mediapart. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous rejoindre, à partager notre émission sur les réseaux sociaux si elle vous a intéressé, à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires et de vos suggestions de quelque manière qu'il soit, sur le site, sur Twitter, sur Facebook, où vous voulez, comme vous voulez, pourvu que nous ayons votre opinion sur notre travail. Et oui, elle compte.